Bonjour à tous, c'est Jérémy. Petit message avant de commencer cet épisode pour vous dire simplement que vous pouvez accéder dès à présent et de façon exceptionnelle au replay de l'événement que j'ai lancé récemment, à savoir le sommet de la productivité. Un événement dans lequel j'ai réuni 7 experts de mon réseau pour vous animer gratuitement un total de 8 conférences sur la productivité. Des conférences sur l'énergie, sur la procrastination, sur également tout ce qui est charge mentale et j'en passe. Donc si jamais vous souhaitez accéder à 8 heures de contenu 100% gratuit sur la productivité, c'est maintenant ou jamais. Car je couperai les accès à ces replays-là, à ces rediffusions-là, le dimanche 28 avril à minuit. Si jamais ça vous intéresse, cliquez simplement sur le tout dernier lien présent en description de chacun de mes épisodes de podcast. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode que vous souhaitez écouter. À très vite. Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Soft Skiller, ou plutôt, devrais-je dire, sur cette toute nouvelle interview de Soft Skiller. Cette semaine, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Béatrice Fornari sur un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, un sujet que j'apprécie personnellement. Ce sujet, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est le fait de réussir à comprendre ses émotions, réussir à les contrôler, réussir à les analyser, afin d'être, en quelque sorte, maître de soi, maître de ses émotions, maître de ses ressentiments. Au cours de cet épisode, que je vous conseille réellement d'écouter jusqu'au bout, Béatrice nous livre sa propre définition de l'intelligence émotionnelle, les exercices qu'elle partage aux élèves qu'elle forme de son côté, car Béatrice est formatrice en intelligence émotionnelle dans le domaine professionnel, et également, elle nous livre sa vision de l'intelligence émotionnelle dans les années à venir, la place que va prendre cette compétence transversale, donc cette soft skills, dans les années qui viennent, à la fois dans le monde professionnel et dans le monde personnel. Avant de commencer, je tiens juste à faire un petit aparté sur la qualité de l'enregistrement. Les conditions n'ont pas été spécialement réunies pour obtenir l'enregistrement de la meilleure qualité possible. Donc, effectivement, ça peut être parfois compliqué à entendre, mais croyez-moi, tendez l'oreille, ça vaut réellement le coup. Allez, j'en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Béatrice. Alors, bonjour Béatrice.
Bonjour à tous.
Alors, Béatrice, tu es spécialisée dans le domaine de l'intelligence émotionnelle et c'est pour ça que je t'ai contacté sur LinkedIn, pour qu'on puisse échanger ensemble et afin que tu puisses partager un peu ton expérience et tes conseils tout simplement pour développer son intelligence émotionnelle et sur pourquoi l'intelligence émotionnelle est importante aujourd'hui.
Ok, super, effectivement. On s'est contacté par LinkedIn. Moi, je suis toujours très heureuse de partager mon expertise et beaucoup de plaisir aussi à prendre conscience que de plus en plus de monde s'y intéresse au regard des résultats que ça apporte. Donc voilà, je suis ravie de l'échange que nous allons avoir ensemble.
Et déjà, avant de commencer, je tiens à te remercier du temps que tu prends pour l'enregistrement en pleine pause déjeuner, en pleine conférence justement sur l'intelligence émotionnelle.
Absolument. C'est un plaisir parce que je me dis que depuis quelques années que je cultive l'intelligence émotionnelle chez moi et je partage mes savoirs et mon expérience auprès des autres, ça vaut le coup de prendre ce temps-là parce que ça permet à chacun de mieux mesurer à quoi ça peut nous servir et puis quand on parle d'intelligence émotionnelle, de quoi on parle exactement.
Justement, tu t'enchaînes parfaitement sur ma prochaine question, ma première question plutôt d'ailleurs. L'intelligence émotionnelle, beaucoup de personnes ne savent pas spécialement ce que c'est. Est-ce que tu pourrais donner une définition par rapport à ça?
Alors, je vais donner la mienne. L'intelligence émotionnelle, c'est déjà la conscience que les émotions ne participent pas d'un monde d'euphorie ou de bisounours ou de quelque chose d'anti-rationnel ou anti-raisonné, mais au contraire, on a à l'intérieur de notre cerveau triunique, c'est-à-dire le cerveau à 3 étages, un panier qui s'appelle le cerveau limbique et qui est le cerveau de notre système émotionnel. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça intelligence émotionnelle, c'est qu'à partir du moment où on va identifier ce qui se passe pour nous dans notre système émotionnel, et bien on va être capable petit à petit de l'exprimer et de mieux le comprendre, et enfin, parce que c'est la quatrième compétence, de mieux le gérer. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité que l'on a à comprendre nos émotions, à les identifier et à les ajuster du mieux que l'on peut, avec des comportements appropriés à une situation donnée par rapport à un objectif. Ça veut donc dire que tout ce qu'on vit émotionnellement, ça vient de notre cerveau, et ça vient aussi de notre corps évidemment, mais de notre cerveau plus particulièrement, et que de ce point de vue-là, la plasticité cérébrale va nous permettre de gérer nos émotions, en tout cas d'apprendre cela.
D'accord, donc ça apprend à prendre du recul sur ses émotions, apprendre à les analyser et apprendre à les contrôler tout simplement.
Absolument, tout à fait. Et c'est pas contrôler dans le sens je les enfouis, je les nie, je les nie, je fais comme si elles n'existaient pas, ou alors à l'inverse, je deviens quelqu'un qui n'est plus du tout émotionnel. C'est vraiment, alors que des grosses colères, on en a besoin, la tristesse on a besoin de toutes les polarités. Donc on a besoin du noir et du blanc. Mais c'est juste se dire que dans une situation donnée, si on a besoin émotionnellement de vivre quelque chose qui va nous servir dans cette situation-là, on est capable, notre intelligence, elle est capable de nous mener à ça. C'est vraiment le point fondamental de l'intelligence émotionnelle.
Donc on est plus réellement sur de l'analyse, sur savoir pourquoi on a agi comme ça, plutôt pourquoi on a réagi comme ça, plutôt que sur un contrôle réellement, je me contrôle et je me ferme. C'est se comprendre en fait au niveau émotionnel.
C'est absolument ça. Il y a une idée dans l'intelligence émotionnelle, dans le fait d'appréhender l'intelligence émotionnelle et de la cultiver. Il y a une idée d'accueil et d'acceptation de ce qui se passe pour nous. Et donc une idée derrière d'ouverture pour savoir comment on peut faire autrement avec ces émotions-là qui nous envahissent, quelque chose qui déborde un peu.
D'accord, très bien. Mais les émotions, il en existe un panel assez conséquent, vraiment très très large. Est-ce qu'il y a des familles ou des émotions plutôt principales sur lesquelles tu travailles en priorité ?
Ah oui, absolument. Alors déjà, il y a une précision que je voudrais donner, c'est que quand on dit qu'on travaille sur la gestion des émotions, en fait, en réalité, on travaille sur la gestion de nos états émotionnels. Du coup, je m'explique, quand tu demandes s'il y a des émotions prioritaires et primaires, oui, les neuroscientifiques en ont démarqué quatre, qui sont la joie, la colère, la tristesse et la peur. Alors parfois, il y a d'autres tendances neuroscientifiques ou psychologiques qui mettent également dans ces émotions primaires le dégoût et la surprise, donc ce qui en fait six. Mais des émotions en elles-mêmes, il n'y en a pas des centaines de millions. En revanche, quand on ressent physiologiquement une émotion, la peur, la tristesse, la colère ou la joie, il va se passer quelque chose en nous. Soit d'un seul coup, on se sent contrarié, ou agacé, ou enthousiasmé, ou apaisé, parfois démoralisé, dépité. Il se passe quelque chose en nous une fois que cette émotion nous arrive, et c'est ça qu'on apprend à gérer. On apprend à gérer ce qui se passe. Parce que, par exemple, tu vois, pour toi, Jérémy, admettons tous les deux, on était dans une... On reçoit juste avant de commencer cette interview, on ressent de la peur, ok ? Mm-hmm. Ça, c'est l'émotion qu'on va recevoir, toi et moi, admettons. Ça dépend de nos systèmes, mais partons de cette hypothèse-là. Toi, la peur que tu reçois, si moi je dis, ah ben moi aussi, j'ai peur avant de commencer l'interview, au regard des expériences que tu as vécues, tu as ancré en toi des croyances et tu as ancré en toi des états émotionnels qui te sont déjà arrivés avant, mais peut-être tu n'as pas du tout conscience. Hein. Et du coup, quand la peur, là, ce stimuli t'arrive de l'extérieur et t'impacte physiologiquement, peut-être que quand tu débutes l'interview, tu as un petit peu chaud, ou peut-être que tu as un peu les mains moites, peut-être que tu trembles un peu. Bon, bref, tu as quelque chose de physiologique. Ce qui t'arrive là, ton cerveau, ton système de pensée, il analyse et il dit « Ah tiens, il lui est déjà arrivé ça avant. » Et selon les résultats de ta précédente expérience, s'ils ont été positifs pour toi ou négatifs pour toi, et ben cette peur-là, elle engendre à l'intérieur de toi un état émotionnel. Et si par exemple, les résultats précédents de précédentes interviews, ils ont été plutôt négatifs, eh ben, la peur qui va t'arriver avant de commencer l'interview, il est possible qu'elle génère chez toi un état émotionnel d'angoisse ou un état émotionnel de panique ou quelque chose comme ça. Peut-être un 1 sur 10, peut-être un 9 sur 10. Et c'est ça qu'on va apprendre à gérer. Et donc, c'est ça qu'on va identifier. Parce que la peur, tu l'auras toujours toute ta vie. La tristesse aussi, la joie aussi. En revanche, la capacité que tu vas développer à gérer ce qui se passe en toi quand la peur arrive, ça, tout le monde peut le faire et sans que ça ait le cerveau.
D'accord, très bien. Super.
Donc, il y a 4 émotions primaires qui sont les mêmes pour tout le monde, sauf qu'on a tous une manière différente d'intégrer ça en nous et de le vivre en nous et du coup, de manière différente aussi, d'apprendre à le gérer.
Et ce que tu me dis se rapproche beaucoup de la notion d'ancrage qui est développée en PNL.
Oui, absolument. Mmh. Absolument. Je pense de toute façon étant dans la paix. Il y a différentes techniques, il y a différents outils qui peuvent nous amener au même résultat et que l'intérêt et l'avantage pour chacun d'entre nous, c'est de pouvoir connaître quelques-uns de ces outils-là pour comprendre lequel est le mieux adapté à ce dont on a besoin, nous, personnellement. Donc, par exemple, ces outils d'ancrage, effectivement, puisque tout ce qu'on vit émotionnellement s'imprime complètement en nous, on peut les retrouver aussi dans certaines, on va dire, thérapies hypnose. Voilà. On va pouvoir les retrouver un peu, voilà, dans plusieurs domaines. L'intérêt, c'est de comprendre quels impacts ils ont sur nous et comment on va pouvoir transformer avec ces ancrages. Donc, si l'ancrage d'hypnose, pour nous, c'est quelque chose qui ne nous convient pas, on va peut-être aller un peu plus sur les ancrages qu'on voit en PNL, effectivement. Ou un peu plus sur d'autres principes que l'on voit dans d'autres,
D'autres domaines.
Oui, dans d'autres domaines, absolument, c'est ça. Alors, l'intelligence émotionnelle, comme c'est pas gestalt ou analyse transactionnelle ou hypnose ou PNL, ça part du principe que une fois qu'on connaît le process neuronal, une fois qu'on sait ce qui se passe dans notre cerveau, eh ben, il va falloir qu'on aille chercher des outils. C'est-à-dire, c'est un petit peu, une fois que tu sais que tu veux partir en vacances, eh ben, il va falloir que tu trouves avec qui, combien de temps ou par quel moyen. Ben, c'est exactement la même chose. Une fois qu'on a l'intelligence émotionnelle permet d'identifier le fonctionnement de notre propre système émotionnel et donc de comprendre comment notre cerveau à nous fonctionne, et ensuite on va aller chercher les outils dont on a besoin pour réguler ça, pour réguler nos émotions.
Nickel, belle définition en tout cas, au moins c'est très précis. Voilà. Et justement, comment toi tu es tombé dans le bain de l'intelligence émotionnelle? Comment tu as découvert ce domaine, qui d'ailleurs n'est pas spécialement encore développé en France? Je pense que c'est quand même encore assez relativement peu connu. Et comment toi tu as pu découvrir ce domaine justement là, il y a quelques années en arrière?
Ouais, alors, j'ai découvert ce domaine en faisant des liens entre différentes formations et mon expérience de vie du moment. Donc, je vais te raconter ça, mais juste, je voudrais préciser que je te remercie de poser ça, qu'effectivement, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, n'est pas encore très connu, ni très reconnu, enfin, plus reconnu que connu, d'ailleurs, parce que quand on perçoit les résultats et quand on vit les résultats, et ben évidemment, ça donne une forte reconnaissance à l'intelligence émotionnelle, et elle est souvent mélangée avec intelligence artificielle, avec intelligence collective, enfin, avec tout un tas de choses, alors qu'elle parle d'un principe très spécifique. Alors aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup pointer, et ce qu'on entend beaucoup, et ce qu'on lit dans plusieurs magazines de management ou autres, c'est les compétences émotionnelles, autrement appelées en anglais les soft skills. Partant du principe que les personnes qui ont les compétences émotionnelles les plus développées sont à grande capacité de s'adapter à de multiples environnements et que donc ce n'est pas la technique qui prime dans la réussite de chacun. Quand je dis réussite, c'est l'épanouissement qu'on aura d'être allé au bout de quelque chose, de l'accomplissement que nous permet d'obtenir une mission. Et donc, quand on réussit quelque chose, l'étude de Goldman, Daniel Goldman, montre que seulement 15 à 20% de nos techniques et de nos savoirs ou de nos connaissances participent de cette réussite et 75% à 80%, 85% à 80% c'est nos compétences émotionnelles qui nous ont permis d'obtenir nos résultats en termes de bénéfices. Donc du coup, il y a un grand intérêt à viser l'intelligence émotionnelle dont nos auditeurs auront peut-être un peu plus entendu parler sous forme de soft skills, compétences douces, compétences émotionnelles qui participent d'une partie au concept d'intelligence émotionnelle. Alors ça, je voulais déjà préciser ça puisque tu l'as abordé. Et moi, ce qui m'a amené à l'intelligence émotionnelle, c'est que je me suis formée à différentes pratiques, notamment au Reiki, qui travaille sur les énergies internes et sur les énergies externes, participant des chakras. Quand j'ai compris comment fonctionnait notre système énergétique en interne, comment ça pouvait impacter l'externe et comment l'environnement extérieur pouvait impacter ce qui se passe à l'intérieur de nous, en termes de fréquence, en termes de champ vibratoire, je me suis reliée à tout ce qui est communication non verbale et tout ce qui est communication non violente. Donc ça, ça a été mes formations d'après. Et puis, à la suite de cela, j'ai voulu trouver un concept un peu plus global et j'ai découvert la programmation neurolinguistique. Mmh. Et là, dans la programmation neurolinguistique, on te parle beaucoup de programmation, déprogrammation, des fichiers que tu as imprimés, qui seront toujours là parce que les situations, tu pourras jamais les changer. Mais en revanche, ce que tu peux changer, c'est la perception de la situation, c'est la relation que tu entretiens avec cette situation. Et du coup, ça change tout ton monde émotionnel. Et ça s'est passé d'une situation peut-être que tu as vécue un peu pourrie. Mais ça, c'est juste la manière dont tu la percevais. Donc ça a généré en toi quelque chose qui te descendait énergétiquement, quelque chose peut-être qui te démoralisait. Et le fait d'apprendre à regarder la situation différemment, et ça c'est ce qu'on construit en PNL, eh ben, ça permet de changer d'état émotionnel. Mais du coup, la programmation neurolinguistique ne m'a pas permis d'aller suffisamment dans le détail de ce qui se passait dans le cerveau. Alors, je suis allée à l'université et j'ai fait un BU, j'ai fait un diplôme de neuropsychopédagogie. Et là, j'ai fait des neurosciences pendant un certain nombre de mois, 2 ans. Et j'ai appris petit à petit le fonctionnement de notre cerveau. Dans un premier temps de manière, et donc le lien qu'il y avait évidemment entre le mental, on va dire l'émotionnel et le physique. Et j'ai appris les connexions entre le cortex, qui est notre cerveau du raisonnement et de la logique et des fonctions exécutives, et le cerveau limbique, qui est le cerveau qui gère la mémoire, l'émotionnel, et du coup nos fichiers imprimés, et qu'entre les deux, il y avait des tas de neurotransmetteurs, on en connaît quelques-uns, mais qui circulent, et que en fonction de la manière dont on se sent à l'intérieur de nous, et dont on perçoit les choses, les neurotransmetteurs, ils nous servent à adopter des comportements appropriés aux situations, ou alors, les neurotransmetteurs, la manière dont ils circulent, ou tel neurotransmetteur, comme le cortisol, par exemple, nous dessert, nous emmène dans un chemin opposé ou inverse au comportement qu'il faudrait qu'on adapte pour obtenir un résultat désiré. Voilà. Et donc, ce DU neurosciences m'a permis de découvrir de manière beaucoup plus approfondie ce qu'était l'intelligence émotionnelle. Et j'ai donc soutenu un mémoire devant les médecins dont la problématique était la gestion des émotions dans les postures professionnelles. Et j'en ai fait mon expertise. Donc ça fait quelques années que je travaille seulement sur ça, sur notre système émotionnel et sur le fait que c'est pas lui, c'est lui qui nous contrôle si on met pas de la conscience et du sens là-dedans, un petit peu comme tout. Aujourd'hui, par exemple, toi et moi, on a appris à lire la langue française, on est capable de lire un bouquin en langue française. Moi, par exemple, je ne suis pas capable de lire un bouquin en chinois parce que je n'ai pas appris. Et on pense que nos émotions, c'est quelque chose qui ne peut pas s'apprendre. Alors que, comme c'est quelque chose qui est géré par notre cerveau, bien sûr que oui, on peut comprendre comment ça fonctionne. Et du coup, on peut en faire des alliés, tu vois, et des forces, plutôt que de lutter toujours contre quelque chose qui nous dérange. Parce que être de temps en temps en colère, c'est bon. Parce que ça nous donne une alerte sur quelque chose qui se passe pas correctement dans notre vie, mais être tout le temps en colère, tous les jours, 10 fois par jour, ça par contre, ça nous alerte dans l'autre sens, parce qu'à un moment donné, cette frustration constante, elle nous conduit dans de la fatigue, dans un stress chronique, et voire même beaucoup plus loin que ça, dans des phénomènes de burn-out par exemple. Donc, mmh. On a tout intérêt à comprendre ce qui se passe émotionnellement en nous.
Alors, toi, tu as suivi un véritable cheminement qui t'a mené à te plonger dans le domaine de l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est passé par la PNL, c'est passé par la reprise d'études également. Mais du coup, est-ce que tout le monde doit suivre ce cheminement-là pour se former? Ou est-ce qu'on peut apprendre l'intelligence émotionnelle en partant de zéro aujourd'hui et sans faire toutes ces études supplémentaires, sans passer par toutes les étapes par lesquelles toi, tu es passé?
Ah oui, absolument. Parce que moi, en fait, là, c'est le cheminement qui m'a amené à comprendre que, en fait, intelligemment, on pouvait gérer nos émotions. Mais bien sûr que oui, il y a des formations. Bon, moi, j'en ai cette année, pour l'instant, j'en ai pas mis encore au bout du jour. Mais tout ce que je partage là sur l'intelligence émotionnelle, je le déploie aussi en formation. Mmh. Et en conférence. Donc, par exemple, quand on fait une conférence sur créer des relations émotionnellement intelligentes, c'est toute une partie de l'intelligence émotionnelle. Parce que l'intelligence émotionnelle, elle est basée sur 5 composantes. C'est-à-dire que quand on vient apprendre l'intelligence émotionnelle, on va mesurer que les compétences de identifier ses émotions, exprimer ses émotions, comprendre ses émotions et gérer ses émotions, ces 4 compétences-là, elles tournent sur plusieurs niveaux. Et donc, dans l'intelligence émotionnelle, on va parler de conscience de soi, de connaissance de soi, de système motivationnel, donc tout ce qui est motivation, d'empathie, et d'aptitudes sociales et relationnelles, donc tout ce qui tourne autour de la communication. Donc tu peux très bien, par exemple, te dire, bon, j'aimerais améliorer ma communication, j'aimerais transformer ma communication, ou alors avec mes enfants et un petit truc qui se passe pas bien, j'aimerais mieux comprendre, et venir faire de l'intelligence émotionnelle seulement sur ce volet-là, communication, parce que c'est une des composantes de l'intelligence émotionnelle. Donc on n'est pas obligé de faire une formation entière sur l'intelligence émotionnelle du début à la fin, parce que de toute façon, les compétences émotionnelles, quelle que soit la composante que tu choisis, soit l'empathie, soit la motivation, soit la communication, soit la connaissance de toi, tu vas de toute façon travailler sur chaque palier avec les compétences émotionnelles. Donc, tu peux faire une formation de 3 jours pour mieux comprendre l'intelligence émotionnelle et ce qui se passe en toi et apprendre à gérer, comme tu peux faire une formation complète qui dure beaucoup plus longtemps, parce que ça peut durer jusqu'à 15 jours, 21, ça fait à peu près 3 semaines, pas d'affilée, mais sur plusieurs années, parce que c'est des modules, en fait, tu vois, et tu peux en trouver, ben voilà, moi, je ne saurais pas, Isabelle Pigliosa est une personne qui travaille beaucoup sur l'intelligence émotionnelle, et aussi, on peut découvrir ou s'initier un petit peu à ça en achetant des livres, Daniel Goleman, qui est le père de l'intelligence émotionnelle, enfin, le deuxième père, parce que c'est Salové et Meilleur qui ont lancé ce concept-là, a écrit un bouquin qui s'appelle l'intelligence émotionnelle, qui est en 2 tomes, et qui est très très intéressant pour découvrir ce concept. Donc bien sûr que oui, t'as raison, il y a plein de manières d'arriver là, et moi je suis arrivée là petit pas après petit pas, mais si c'est seulement l'intelligence émotionnelle qui nous intéresse, bien sûr qu'on peut y aller directement, on n'a pas besoin de tout ça, quoi.
Donc ce que tu me dis en fait, c'est qu'il n'est pas nécessaire de maîtriser l'intelligence émotionnelle de A à Z, mais plus d'aller chercher simplement les outils de l'intelligence émotionnelle qui peuvent répondre aux problématiques auxquelles on est confronté.
Absolument.
Ok.
C'est exactement ça, ouais.
Et pour rebondir sur le livre de Goleman, de Daniel Goleman, c'est un livre aujourd'hui qui est très complet, comme tu l'as dit, qui fait les 2 tomes font plus de 1000 pages réunies, il me semble. Et le prix est ridicule parce que je crois que c'est 10 euros sur Amazon, et donc c'est une très bonne initiation, une très bonne entrée dans la matière pour un prix réellement dérisoire.
Complètement.
Parce que trouver.
Oui, oui, ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un livre. Alors c'est vrai que si nos auditeurs ils voient en librairie ou même comme ça, le livre de 1000 pages, ça peut impressionner. On se dit, oulala, 1000 pages sur intelligence émotionnelle, c'est pas le concept facile, mais Goleman, il a vraiment, je dirais pas vulgarisé, parce que je veux pas diminuer l'essence même du travail qu'il a fait et de ce qu'il partage, mais c'est vraiment accessible à tout le monde. Alors, c'est un très bon début, déjà. livre de Goleman. Vraiment, parce qu'il est précis, concis, il donne des exemples pertinents et accessibles à tous, qui parlent à tous, et en même temps, il y a de la profondeur dans le sens, il y a quand même une masse d'informations et connaissances importantes. Donc c'est pas l'objet de vulgarisation où on va un peu apprendre et pas grand chose, c'est pas non plus l'objet scientifique où on comprend rien, mais c'est un juste milieu entre les deux.
Et comme on l'a dit tous les deux ensemble, en fait, le livre de Goleman, il n'est pas nécessaire de le lire d'une traite. On peut très bien lire un chapitre, chercher à l'appliquer, laisser passer une semaine, deux semaines, voire un mois, relire un chapitre, etc. Et je pense que c'est même mieux d'ailleurs de confronter, on va dire, les conseils de Goleman et la vision des choses de Goleman à la réalité, plutôt que tout avaler d'un coup, tout oublier au final, et puis voilà, faire l'impasse sur les conseils qui sont donnés. En tout cas, c'est ma vision des choses, en tout cas.
C'est exactement une très bonne manière de lire ce livre. Et s'il y a des choses qui ne nous parlent pas dans ce qu'on lit, hop, bah, on dit, pour l'instant, on ne lit pas, et on va aller chercher quelque chose qui nous parle davantage. Parce que ce qui nous parle davantage, ça va nous bien accrocher, on va comprendre des éléments, éventuellement, comme tu dis, on va l'expérimenter dans notre réalité, en tout cas, on va tisser des liens avec notre réalité, et du coup, ça va nous emmener sur un autre terrain. Et là, peut-être qu'il ne nous interpellait pas ou peu au début, ça va commencer à nous interpeller. Donc, c'est une très bonne stratégie, ce que tu as proposé.
Et comme on a dit, du coup, Goleman, c'est vraiment une très belle entrée en matière pour toutes les personnes qui veulent commencer à se former à l'intelligence émotionnelle. Mais toi, avec ton expérience, avec ton recul, avec les formations que tu peux animer, est-ce que tu as, par exemple, un exercice à nous donner, simple à mettre en place, qu'on peut mettre en place dès aujourd'hui, pour commencer à développer son intelligence émotionnelle?
Je vais choisir parce que bien sûr des exercices j'en ai plein qui peut être vraiment simple. Moi, ce que je peux proposer aux personnes, c'est déjà pour commencer le premier pas dans les compétences émotionnelles, c'est d'identifier ce qui se passe en nous. Et bien, c'est chaque soir. Alors choisissez, hein, ça peut être tous les soirs, ça peut être une fois par semaine, ça peut être tous les matins. Chacun est libre, mais ce qui est important pour le cerveau qui lui travaille par automatisme, processus automatisé, c'est de lui proposer un jeu régulier et récurrent pour qu'ils comprennent qu'on est en train de changer des fichiers, hein. C'est-à-dire pour qu'ils comprennent que l'autoroute neuronale qu'il a tracée, on est en train de lui proposer des petits chemins de travers. Donc c'est quand on veut, mais c'est régulier. Alors, sur les smartphones, il y a des smileys, plein de smileys. Et alors, ça peut être aussi dans des bouquins, ça peut être des smileys qu'on invente. Ce que je peux proposer aux auditeurs, c'est que pour marquer leur état émotionnel, du soir, du matin, ils choisissent un smiley, comme ça. Et ils disent, bah, tiens, comment je me sens maintenant? Pas comment je vais me sentir dans une demi-heure quand je suis au boulot, ni dans les embouteillages, mais là, maintenant, quand je rentre le soir, comment je me sens? J'ai choisi mon smiley, je laisse une empreinte, une trace. Donc, soit je le mets sur un post-it, mais je garde le post-it, soit je le mets sur un morceau de papier, soit dans un cahier. Le morceau de papier, je peux le mettre dans un bocal, parce que comme ça, à un moment donné, ça va lui faire du volume. Et je fais ça régulièrement. Tous les matins, tous les soirs, tous les dimanches, comme je veux. Et, au bout d'un certain temps, 7 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours, je décline mes papiers, je regarde mes post-it, je revisite mon cahier, et j'analyse, en fait, la tête des smileys que j'ai choisi. Depuis tous ces jours-là. Et là, ça me donne un élément très fort sur l'identification de mes émotions, dans le sens où si pendant 4 jours d'affilée, j'ai choisi un smiley qui avait la bouche un petit peu, qui faisait la tête ou qui était en colère, ou inversement, ça me permet de mesurer ce qui s'est passé en moi pendant un certain nombre de jours. Et ça, c'est très important, parce qu'on est sur la première phase des compétences émotionnelles, c'est-à-dire que j'identifie ce qui se passe. Et c'est assez complexe d'identifier ce qui se passe. C'est-à-dire que là, par exemple, on va avoir tout un panel de smileys dans nos choix, et on va dire, oh là là, attends, lequel je prends vraiment pour dire comment je me sens? Et il y a des jours où ça va être plus facile que d'autres jours. Et donc ça, c'est vraiment une première étape indispensable pour identifier nos émotions.
C'est le fait de prendre conscience de l'émotion que l'on traverse à l'instant T en mettant une image dessus.
Ouais, c'est ça.
Ok, super intéressant.
Parce qu'après, la deuxième étape, ça va être de mettre un mot à côté du smiley qu'on a choisi. J'ai choisi ce smiley, comment je me sens irrité, comment je me sens heureux, comment je me sens démoralisée, comment je me sens calme, bon bref, peu importe. Et on va voir que plus on avance dans cette conscience, donc par exemple, au bout de 3 semaines, le cerveau comprend bien comme ça, au bout de 3 semaines, qu'on a intégré le processus du smiley, on continue toujours avec nos smileys, mais on fait smiley plus mots à côté.
D'accord.
Déjà, ça nous permet de spécifier, et là, ça commence à devenir un peu plus complexe, parce que le vocabulaire pour exprimer ses émotions, c'est la deuxième étape des compétences émotionnelles, il est riche, varié, mais nous, on ne le connaît pas, parce qu'on ne l'a jamais appris. Et donc, on va voir qu'au bout d'un moment, on dit, ah non, attends, je suis heureux, mais c'est un petit peu plus qu'heureux quand même. Non, je suis contrarié, mais un peu plus, c'est limite agacé. Et donc là, on va commencer à rentrer dans une certaine subtilité de l'expression de nos émotions.
Et est-ce que l'étape suivante, c'est de mettre des mots sur les émotions des autres?
Pas tout de suite.
Pas tout de suite, c'est encore bien après? D'accord.
Non, voilà, parce que d'abord, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va arriver à la phase comprendre. Et du coup, comprendre, ça veut dire que, ok, j'ai un smiley qui sourit, j'ai l'adjectif qualificatif heureux en face, et à côté, je mets dans quelle situation j'ai ressenti ça. Parce que ce qui se passe, c'est que les situations où j'étais moins bien, je vais, pour me sentir mieux, aller voir quand c'est que j'ai mis des smileys où je me sentais bien.
Mmh.
Et du coup, c'était dans quelle situation où je me sentais bien. Donc, quand je vois que pendant 4 jours d'affilée, je mets irrité, agacé, énervé, je me dis, bon, bah, maintenant, ça suffit. J'aimerais bien aller vers quoi? Peut-être vers du calme, peut-être vers de l'apaisement, peut-être vers de la sérénité. Donc, je vais aller chercher mes smileys d'avant où j'avais ressenti ça. Et je vais regarder la situation que j'avais décrite en face et je vais me dire, ah, ok, je comprends que quand je suis tout seul et que j'écoute de la musique, je me sens en sérénité. Autrement dit, quand je me sens agacé dans la réunion, est-ce qu'il m'est possible de demander de sortir 1 ou 2 minutes en disant, ok, je sors pendant 1 ou 2 minutes, de m'écouter tranquillement pendant quelques secondes une musique qui va me permettre de me calmer. Si c'est possible, ça va être une potentielle bonne stratégie pour moi, pour commencer à apprendre à gérer mes émotions. Parce que je ne peux comprendre et travailler avec les émotions des autres dans ce qu'ils vivent que si j'arrive à le faire pour moi.
D'accord. Donc c'est de se rattacher du coup à un ancrage émotionnel positif qu'on a vécu dans le passé pour le réactiver et donc se remettre dans la bonne disposition émotionnelle, le cas de la disposition émotionnelle qu'on souhaite atteindre.
C'est ça, c'est exactement ça.
Okay.
Et là, il y a 2 enjeux prioritaires. C'est un, avoir mis le doigt sur les situations qui nous permettent de nous sentir dans un état émotionnel plutôt positif et 2, savoir ce qu'on veut. Autrement dit, avoir clarifié un objectif. C'est-à-dire que si on dit, oh là là, je suis toujours en colère, ça m'énerve, ben non, forcément, je suis toujours en colère, ça m'énerve, mais qu'on ne sait pas quel état émotionnel on aimerait vivre, ça pose un problème à notre cerveau. Parce que notre cerveau, il dit, bah, écoute, j'entends que tu en as marre d'être en colère, mais je ne sais pas quoi faire pour toi. Hein. Parce qu'on ne lui dit pas ce qu'on veut, et surtout, on ne lui donne pas d'image. Et le cerveau ne comprend que les images. Et c'est comme ça qu'on arrivera à transformer. C'est-à-dire que je veux du calme, ok. Dans quelle situation j'ai du calme? Quand j'écoute de la musique, peut-être quand je fais 10 pas dans le couloir, peut-être quand je respire l'air de dehors, dans quelle situation, dans quel moment je ressens du calme? Et là, on donne une image à notre cerveau, c'est bien ça le pouvoir de la visualisation en hypnose. Et là, quand on a l'image, même si c'est une image très courte, très pas la grande image du siècle, elle va nous aider à gérer nos émotions.
Bah, merci en tout cas pour le partage de ces quelques exercices. Merci vraiment. Et dernière petite question, parce que je vois que l'heure défile et tu vas bientôt reprendre ta conférence. Est-ce que l'intelligence émotionnelle est une compétence d'avenir, selon toi? C'est large comme question, j'en ai conscience. Hein.
C'est oui, avec un grand oui. Parce que c'est ce qui est mis en conscience de plus en plus. C'est-à-dire que plus tu vas avoir conscience de ce qui se passe en toi, aussi bien que de ta valeur, hein. C'est-à-dire que en général, on sait ce qu'on est capable de faire. On connaît à peu près nos compétences, on dit oui, ok, moi pour ce poste, je vais réussir à organiser ça, je vais réussir à gérer mon équipe, je vais faire ci, je vais faire ça. On s'aperçoit que plus on a conscience de qui on est et de tout ce qui se passe pour nous, meilleur on est. C'est-à-dire qu'on développe ce qu'on appelle, peut-être dans le développement personnel, notre potentiel, parce qu'on connaît nos ressources. Et bien, l'intelligence émotionnelle participe de ce principe-là. Donc, plus on va développer notre intelligence émotionnelle et par la suite la cultiver, plus on va être, chacun d'entre nous, quelqu'un, un être complet. Et donc, un être épanoui, parce qu'on va savoir où on va et on va savoir avec quoi on y va. En termes de connaissances, donc de savoir, en termes de savoir-faire, donc de compétences, et en termes de savoir-être, c'est-à-dire d'intelligence émotionnelle. Donc, moi, je pense que oui, c'est un, on va dire, un concept d'avenir, mais beaucoup plus largement qu'un concept. C'est ce qui pourrait sauver de nombreuses équipes, de nombreuses entreprises, de nombreuses organisations, et c'est ce qui pourrait sauver l'individu lui-même des souffrances qu'il vit au quotidien. Et toi et moi, on en voit tous les jours dans nos milieux de travail, hein. Des personnes qui souffrent, qui sont pas bien, qui savent pas trop pourquoi, et nous les premiers quand ça nous arrive. Mais justement, quand ça nous arrive et qu'on arrive à mettre les doigts, à se poser et dire « Ok, je vais chercher ce qui m'arrive là pour pouvoir le réguler différemment », ça change toute notre vie en fait, hein.
Et là, je vais rajouter de mon regard de recruteur qu'effectivement, c'est une compétence très recherchée aujourd'hui. Et surtout à l'avenir, dans le sens où de plus en plus les choses sont automatisées, de plus en plus les choses sont robotisées. Et donc, de plus en plus, ces personnes qui ont ces compétences émotionnelles, qui ont ces soft skills, ces personnes-là vont réussir un peu à sortir du lot et à ne pas, comment dire, être sur la touche du marché de l'emploi, qu'elles vont apporter des compétences différenciantes et des compétences que les entreprises vont rechercher demain encore plus qu'aujourd'hui.
Absolument, parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, on entend des grandes phrases pour replacer l'humain au cœur du système, pour le replacer l'humain au cœur des organisations. Mais c'est ce qui est déjà fait dans de nombreuses organisations, mais peut-être pas d'une manière qui permet la croissance et la performance. Mais l'humain, il est déjà là au centre, il est déjà là au cœur, sans ça, comme tu dis, tous les processus seraient automatisés. Sauf qu'on a oublié de quelle manière le considérer, de quelle manière lui donner ou lui faire prendre une place, de quelle manière l'emmener vers le meilleur de lui-même. Et il y a bien une chose qu'on ne pourra jamais sortir d'un collectif quel qu'il soit, c'est l'humain. Et donc, dans l'intelligence émotionnelle, il y a tout ce qui participe de notre intelligence individuelle, et quand on aura construit ça en conscience et en confiance, et que chacun aura plus confiance en lui et plus d'estime pour lui, eh ben, il pourra mieux se relier aux autres et mieux se connecter. Et on passe d'un concept d'indépendance de soi au concept d'interdépendance, parce qu'on peut rien faire pour les autres. Et l'intelligence émotionnelle participe de tous ces principes-là. Et donc, participe de la fluidité de l'engrenage, en fait. Je te rejoins à 100%.
Je pense que tu as tout dit également. Et ben en tout cas merci Patrice, merci pour cet échange, merci pour la qualité des éléments que tu nous as donnés.
Merci à toi pour ta confiance, et puis merci aussi beaucoup de gratitude pour le fait de c'est encore pour moi des graines de plus semées un petit peu autour de moi et peut-être chez chacun, et après on arrose voilà avec comme on peut, dans la temporalité qu'on peut, dans l'espace qui nous est donné. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi pour ta confiance, parce que c'est des sujets un peu particuliers aussi, et ce mérite-là de le déployer, c'est pas donné à tout le monde, donc merci à toi aussi. Voilà,
c'est le sujet qui mérite d'être démocratisé, effectivement. Voilà. Bel après-midi à toi, puis bon courage pour le reste de ta conférence.
Merci beaucoup, à très bientôt.
À très bientôt, salut.
Au revoir.
Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai pris de plaisir à échanger avec Béatrice. Le sujet de l'intelligence émotionnelle est réellement, comment dire, très large. Ça, vous avez pu le saisir, je pense, au cours de notre échange avec Béatrice. Ce podcast, on va dire que c'est plus une introduction à l'intelligence émotionnelle. C'est vous partager ce concept, c'est vous faire découvrir cette forme d'intelligence que vous avez, que votre voisin a, que j'ai également, mais malheureusement, on n'arrive pas spécialement à mettre le doigt dessus. On n'arrive pas spécialement à se rendre compte que gérer ses émotions, c'est une forme d'intelligence. Et donc, si vous souhaitez aller plus loin, je pense que je vais faire, peut-être pas maintenant, mais peut-être d'ici la fin de l'année, plusieurs podcasts consacrés à l'intelligence émotionnelle. consacré au fait de développer son intelligence émotionnelle et de comment utiliser les compétences émotionnelles pour se distinguer, pour faire plus, pour faire mieux et pour, encore une fois, tirer son épingle du jeu par rapport à cette société, cette quatrième révolution industrielle qui nous guette d'un coin de l'œil. C'est donc très important. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode classique de Soft Skiller. Excellent week-end à vous, à très vite.